Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde et de partager des parcours de vie qui peuvent parfois être inspirants. Donc là, avec moi, Gaëtan Boller. Gaëtan, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un article qui disait que tu marches et que tu as rallié Dakar en partant de Paris à pied sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc je m'intéressais un peu à ton histoire de vie, ton parcours. Et peut-être la première question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu choisisses de faire ce genre d'aventure ? Donc peut-être c'est quelque chose que tu nourrissais déjà enfant, enfin on va revenir un peu dans le passé. Donc parle-nous un peu de ton itinéraire de vie, ton parcours, et à quel moment tu as eu envie de marcher et de partir loin ?
Ah, moi je suis pas sportif du tout déjà, ça c'est un fait. Je parlais peut-être un peu de ma jeunesse. Moi j'étais un très grand timide, ma mère qui disait t'arriveras rien dans la vie, etc., etc. Et puis un jour je me suis pris par la main, j'ai repris des études et puis je suis rentré dans une entreprise, ça marchait pas trop mal, je me suis mis à mon compte en 97 et j'ai réussi à monter une entreprise avec 25 salariés et ça marchait très bien, je gagnais bien ma vie. Et puis un jour ma fille me dit écoute papa, le monde est grand, la vie est petite, t'as une grosse bagnole, t'en veux une deuxième ou quoi? Et mon fils il me dit écoute papa, toi, t'es gros, t'es pas sportif. Lui, il était champion de National 2 de basket, quoi. Je me suis pris une claque dans la gueule, et puis je me suis dit, bon, je lève un peu le pied. Financièrement, je gagnais assez ma vie. Pourquoi toujours travailler pour avoir une plus grosse bagnole? C'est vrai qu'elle avait pas tort, ma fille. Et pour faire plaisir à mon fils, je lui dis, écoute, je vais faire le GR20 en Corse. Et je me suis acheté un sac à dos, j'ai acheté le matériel, et je suis parti faire le GR20. La première journée, j'ai failli abandonner, mais les gens, ils m'ont applaudi en arrivant. Ils m'ont dit, ouais, super, avec votre gros ventre, là, c'est bien, allez-y. Bah, le deuxième jour, je suis parti le matin très tôt, j'étais le premier à partir du refuge, le dernier arrivé le soir, et puis ils m'ont applaudi, ils m'ont dit, ouais, continue et tout. Puis en fin de compte, j'ai fait le GR20. Et quand je suis arrivé au bout, j'ai jeté le sac, j'ai dit, ok, j'ai réussi à faire un truc exceptionnel pour moi. J'arrête ces conneries, je pose le sac d'un côté, et puis voilà, quoi. Malheureusement, l'année d'après, ça me démangeait, ça me grattait un peu, et j'ai traversé la Réunion à pied. J'ai dormi sur le piton des neiges. Et puis, j'ai jeté le sac parce que je me suis dit, avec mon physique de 120 kilos, c'est pas possible de marcher comme ça. Et tous les ans, pendant 4-5 ans de suite, j'ai continué à faire des trucs toujours un peu plus fous. Après, j'ai traversé les Alpes de Genève à Menton. Là, c'était 29 jours. L'année d'après, j'ai fait toutes les Pyrénées par les sommets. Enfin, j'ai pas fait, hein, ils y étaient déjà, quoi. Je suis parti de la Méditerranée, je suis allé à Hendaye, 52 jours de marche. L'année d'après, il y avait le Covid. Moi, je voulais traverser tout le tour. Je voulais faire tout le tour de l'Afrique en 4x4. Il y avait le Covid, on pouvait pas y aller. Oh, je me suis dit, je continue à randonner dans la montagne. J'aime bien. Et j'ai fait Vienne-Monaco à pied. C'est à peu près 84 000 mètres de dénivelé, 2000 km de long. J'ai fait 181 jours. J'ai perdu 17 kilos sur le parcours. Et pour moi, c'est très dur au début, mais en fin de compte, j'étais tellement bien avec les animaux, à mettre la tente au bord de l'eau, tout ça. J'étais avec les marmottes. Et au bout de 81 jours, je suis arrivé à Monaco sur les blaireaux. Et là, c'était la catastrophe. Et là, j'ai dit à ma femme, je lui téléphone, j'avais 57 ans, je lui dis, écoute chérie, c'est pas une vie de travailler toujours plus pour gagner plus d'argent. Moi, je vais m'arrêter de travailler maintenant. Et puis, je vais faire autre chose. Et comme j'avais de l'arthrose dans le genou, j'ai réfléchi un peu, je vais faire un truc un peu différent, je vais faire du plat. Alors, la traversée des Alpes, la traversée des Pyrénées, tout ça, c'était magnifique pour rencontrer des super beaux paysages. Mais mon Paris-Dakar que j'ai choisi, c'était pour rencontrer des paysages humains, me rencontrer moi, rencontrer les autres, quoi. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler, j'ai décidé d'aller à Dakar à pied, quoi.
Donc, avant, quand tu partais sur les voyages, donc le GR20, tu parles des différents treks que tu as fait à La Réunion, donc ça, c'était, tu étais encore à ce moment-là chef d'entreprise, donc tu prenais des vacances pour pouvoir marcher.
Enfin, je prenais pas des vacances, je levais le pied, quoi. Mais oui, effectivement, la première année, j'ai pris un mois, vers la fin, je travaillais plus que 6 mois par an, quoi. Et je vivais de minimalisme et je me rendais compte que le bonheur, c'était ça, quoi. C'était pas la Ferrari.
Mais ça, tu partais seul, parce que tu parles de ta femme et de tes enfants, donc c'est quelque chose que tu avais besoin de vivre seul, ou pourquoi tu faisais ce choix de partir comme ça et laisser ta femme et tes enfants ici?
Déjà, eux, ils n'avaient pas les vacances, ça c'est clair. Bon, bien que ma fille, elle est aussi un peu baroudeuse et je l'emmène souvent avec moi, 3-4 semaines par an, on va aller par là. Mais moi, j'aime bien être seul parce que quand je suis seul, il y a une phrase que j'ai apprise à Casablanca, un gars que j'ai rencontré, Hassan Charaf, qui me disait « Quand tu marches, tu avances dans la tête. » Et quand je suis seul, quand je marche comme ça, j'ai l'impression que j'attire beaucoup plus que si je suis en couple. Et il faut déjà être un peu fou aussi pour marcher 7000 km comme je l'ai fait tout seul, quoi. Emmener quelqu'un avec soi, c'est quasiment impossible. Mais j'ai une petite phrase que j'aime bien dire. Moi, quand je marche en groupe, c'est toujours un nombre impair, inférieur à 2.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Qu'est-ce que c'est que marcher pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant ces journées de marche en solitaire? Qu'est-ce que tu retrouves? Qu'est-ce que tu connectes à l'intérieur de toi?
Alors physiquement, c'est très dur, surtout le premier mois, les deux premiers mois. Mais mentalement, ça fait vraiment du bien. Parce que surtout quand j'étais dans le désert, j'étais tout seul dans le désert. On pense à rien, ou alors on pense juste à l'instant présent. Moi, par exemple, dans le désert, j'avais 120 km entre deux points de ravitaillement. C'est à peu près 4 jours de marche. Et là, quand on trouve une boîte de sardines dans un petit hanout, une petite épicerie marocaine, on est heureux. Et je mangeais des sardines, je mangeais des dattes, des choses comme ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces petites stations d'essence qu'il y avait au bord de la route, il n'y avait rien pendant 120 km. Ben, il y avait un gars qui était là, qui parlait arabe. Je parlais avec lui, avec le cœur, avec les mains. On se comprenait, on avait des sourires. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et la nuit, quand je voulais dormir, lui dormait par terre sur un carton. Il m'a offert son carton. Et j'ai appris beaucoup de choses en marchant comme ça. Moins tu as, plus tu es. Nous ici, dans les pays qu'on a, les pays riches, on a plein de choses, on veut toujours plus, quoi. Et moi, j'ai remarqué, ça a vraiment changé ma vie, ce Paris-Dakar, j'ai remarqué que moins tu as, plus tu es, et quand t'as rien, t'as tout, en fait, quoi. Et je me suis vraiment rendu compte, à travers cette marche, que les biens matériels, c'est de la connerie, tout ça, quoi. Ça sert à rien. Le bonheur, il est pas là. Moi, quand j'ai traversé le désert, au bout de 1700 km, j'ai commencé à voir des mauvaises herbes. J'étais heureux. J'étais la vie qui revient, quoi. J'arrivais dans une station, on m'offrait un soda, même qu'il était chaud. Mais c'était le bonheur, ça. Aujourd'hui, on a perdu toutes ces valeurs-là, quoi. Et moi, dans mon bouquin, je dis souvent, j'ai écrit un bouquin sur le Paris-Dakar, que j'ai fait à pied. C'est 7000 km, 114 nuits chez l'habitant, 4 paires de chaussures, mais surtout 1 million de sourires. C'était ça le plus beau de ce parcours. Dakar, j'étais déjà avant, j'étais allé en avion. C'est pas l'objectif, c'était le voyage. C'était pas d'aller à Dakar.
On en reparlera. Donc devant nous, effectivement, Gaëtan Boller, ton bouquin Paris-Dakar à pied. Donc c'est pas ton premier voyage. Il y en a eu plein d'autres avant, comme je viens de le comprendre. Qu'est-ce que ça représente la marche? Pourquoi marcher plutôt que de prendre l'avion ou que de prendre la voiture pour ces rencontres?
Déjà, se prendre le temps, pour moi, c'est un luxe. J'ai hésité à partir en van, à acheter un voilier, faire le tour du monde en voilier, etc. Je me rends compte qu'avec la marche, on va vraiment n'importe où, on peut aller vraiment partout et vraiment se prendre le temps de rencontrer les gens, quoi. Quand on est sur un van ou en moto, on s'arrête pas toujours. Moi, je rencontrais un paysan dans un champ, je m'arrêtais. Et le fait de marcher, c'est vraiment de se prendre le temps. Alors c'est vrai que c'est un luxe, hein. Moi je suis parti 8 mois, c'est un luxe, mais c'est vraiment en allant à pied, c'est vraiment moi ce que j'ai appris. Pour moi c'est le bonheur. Il y a pas d'autres moyens. Les autres moyens de déplacement, ça ne m'intéresse plus.
Il y a pas besoin d'être sportif comme tu disais pour marcher.
Si, il faut être sportif dans la tête. Moi je suis pas sportif du tout. Je fais 120 kilos. Quand j'ai traversé les Alpes, j'ai perdu 17 kilos. J'ai un gros avantage, j'ai le temps. Quand je pars avec mon sac à dos, bon, au début, j'étais pas équipé, j'avais un sac à dos, il faisait 18 kilos, rien que le matériel, sans boisson ni rien. Petit à petit, je me suis entraîné au bout de 4-5 ans. Le sac à dos, il est beaucoup moins lourd. J'ai toujours 18 kilos avec l'eau dans le désert, bien sûr. Mais quand...
C'est bien que tu parles du sac, parce qu'il y a cette phrase, tu le disais avant, en off, hors de l'antenne, là, c'est le poids du sac, c'est le poids des peurs. Donc qu'est-ce qu'on met dans son sac quand on part comme ça sur du long cours? Et aussi, j'aimerais que tu nous racontes comment se passe une journée type, parce que j'imagine tu ne sais pas forcément, vu que tu as le temps, tu ne sais pas forcément où est-ce que tu vas t'arrêter.
Oui, absolument. Je reviens à la question que tu m'as posée avant. Effectivement, moi, je suis pas sportif du tout. Quand je suis parti, par exemple, sur mon Paris-Dakar de Paris, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire 15 15 kilomètres. Et à force de marcher, bon ben, je maigris, dans la tête, on avance tout seul, les pieds, ils suivent, etc. Moi, j'ai pas un objectif de dire tous les jours, je fais 25 kilomètres. Quand j'en peux plus, j'arrête. Et je me rends compte que, ben, la première journée, je voulais faire que 15 kilomètres, j'en ai fait 25. Dans le désert, j'en faisais presque 40. Parce que quand t'es seul dans le désert, il y a une ligne droite, là, je marchais toujours sur, il y a une route qui descendait sur Dakar, t'as rien d'autre à faire que marcher, tu prends ton temps, mais je marche pas vite. J'ai une moyenne de 3,6 km heure à peu près. Pourquoi? Parce que je discute avec les gens, je prends les photos des fleurs, des mauvaises herbes, des fois je vois une flaque d'eau dans le désert, je prends une photo, quoi. Qu'est-ce que j'ai dans le sac? Dans le sac, j'ai pas grand chose. J'ai un panneau solaire, deux t-shirts, un sale, un propre, un réchaud, un sac de couchage, une tente. La tente, quand j'ai fait mon Paris-Dakar, la tente, je l'ai rendue à Mont-de-Marsan, je l'ai renvoyée chez moi en Alsace, ici, parce que j'étais tellement habitué à aller chez les gens. Il y a même une personne qui m'a offert un hamac sur mon parcours, et puis j'ai gardé le hamac, c'était moins lourd que la tente. Et je dormais en forêt dans le hamac, ou alors sur la plage. Et comme j'aime bien dire, moins tu as, plus tu es. Le minimum dans le sac, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. On tombera toujours sur quelqu'un qui aura le médicament qu'on n'a pas, ou on a toujours peur. Le poids du sac, c'est le poids de ta peur, comme disait un collègue. Et on veut toujours mettre plein de choses dans le sac, des au cas où, mais ça sert à rien en fin de compte, quoi.
Mais ça, on s'en rend compte sur le chemin, hein. Souvent, on part avec un sac. Tu parlais de 18 kilos pour se rendre compte qu'à l'arrivée, il en fait plus que la moitié.
Alors, le plus important, c'est un téléphone. Je dirais un téléphone, pas pour téléphoner, mais moi, je m'en sers pour me géolocaliser et puis pour prévenir la famille, pour prendre les photos, pour partager après. Une prise électrique, une carte bancaire, il faut aussi, bien sûr, parce que il faut un peu d'argent pour aller acheter ou pour offrir un repas à un gars qu'on voit dans le désert qui n'a rien. On a toujours besoin un peu d'argent avec soi, mais c'est pas énorme du tout, quoi. Moi, ce que je peux dire par rapport à l'argent, quand je suis parti, j'avais de l'argent dans la poche. Quand je suis arrivé à Dakar, j'avais de l'argent dans le cœur.
C'est beau. Paris-Dakar à pied, parle-nous d'une journée type. Comment ça se passe? Est-ce que tu sais le matin en te réveillant, ou est-ce que tu vas te coucher le soir? Comment est-ce que tu rythmes ta journée?
Alors c'est ça le bonheur. Moi le matin, j'essaie toujours de me lever assez tôt, parce qu'avec la chaleur qu'on avait que j'avais dans le désert, ou même en France, quand je suis parti, il faisait 40 degrés. Donc je pars très tôt, des fois 4 heures le matin. Alors j'aime bien partir parce qu'il y a rien, on voit le soleil qui se lève petit à petit, on voit les animaux sauvages, et puis des fois on arrive dans un petit village, on sent le bon café, le croissant, c'est du bonheur, quoi. Ensuite je marche. J'essaie de trouver un peu d'ombre pour manger à midi. Je mange pas grand chose à midi, un bout de pain, un bout de saucisson ou une boîte de sardines. Je repars l'après-midi, si vraiment fait trop chaud, je me repose. Mais ce qu'il y a, je ne sais jamais où je dors le soir, et c'est ça qui est magnifique. Je peux rencontrer quelqu'un à 14h et puis je discute avec lui toute l'après-midi et je vais dormir chez lui le soir, ou je vais repartir. Je peux dormir sur une plage, je peux dormir dans une forêt, je ne sais jamais où je dors le soir, et c'est ça qui est merveilleux, quoi. J'ai horreur personnellement de faire un truc programmé à l'avance, de toute façon on peut pas le tenir. Une journée type par exemple, qui était assez intéressante, quand j'ai traversé la France et Pyrénées, je suis arrivé à Pampelune, et je voulais continuer sur Madrid-Gibraltar. Et j'ai discuté avec des gens, ils me disent « Madrid c'est 45 degrés, les flics ils vont t'emmener, ils vont te prendre pour un fou, c'est pas possible ». Bon, je me suis mis assis, j'ai réfléchi un petit peu, et puis je téléphone à mon épouse et je lui dis « Écoute, je vais faire un petit détour par Compostelle, ça fera que 1000 km en plus et 6 semaines, quoi ». Et puis c'était sympa, je suis passé par le Portugal, voilà, c'est une journée type, je sais pas ce qu'il y a le soir.
Mais c'est marrant parce qu'on est quand même dans un monde où on a besoin de planifier, besoin de se sécuriser, ça paraît dingue de se dire on sait pas où on dort le soir, alors que quand on part en vacances, on a besoin des fois de réserver nos hôtels plusieurs semaines à l'avance pour se sécuriser. Et là, t'es en train de nous montrer que, bon, en fait non, c'est possible de trouver un endroit pour dormir sans avoir rien anticipé.
Ah ben ça, on trouve partout, peut-être. Alors les gens souvent me disent « Oui, mais en Afrique, les gens, ils sont généreux, etc. etc. » C'est pas vrai du tout. En France aussi, j'ai rencontré des gens qui m'ont accueilli, mais c'était pas dans les grandes villes, c'était pas des gens avec des gros 4x4, c'était des retraités qui vivaient seuls chez eux, qui avaient besoin de conversation, qui avaient besoin qu'on partage un peu de temps avec eux. On trouve toujours. Moi, je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas le portugais, je ne parle pas l'espagnol, je ne parle pas l'arabe. Par contre, je parle avec le cœur et avec les mains, quoi. Et quand on vient, on apprend « Bonjour, merci, au revoir » dans n'importe quel pays, et qu'on vient avec un grand sourire, il n'y a aucun problème, les gens ils vous accueillent. Moi, j'ai aucune difficulté. En plus, quand moi je viens, je suis pauvre, j'ai un sac à dos qui doit sentir le chameau, moi j'ai des habits qui sont moitié déchirés, je ne monte pas mon argent, et je rencontre aussi d'autres gens qui sont pauvres. Et on s'attire les uns les autres. Hassan Charaf, que j'ai rencontré toujours à Casablanca, il me disait « Gaëtan, quand tu es aimant, tu deviens un aimant ».
Gaëtan, quand tu es aimant, tu deviens un aimant. Très beau.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
De pas savoir où dormir le soir, mais en fait je me rends compte aussi que on a tendance à oublier. Mais si on reprend l'humanité dans son histoire, on est sédentaire depuis pas très longtemps, 3, 4, 5 000 ans peut-être, et de tout temps l'homme a été marcheur, hein, ou semi-nomade, à la recherche d'un climat plus doux pour son bétail, à la recherche de quoi pouvoir se nourrir. Donc finalement l'homme est marcheur par naissance et par nature, et c'est souvent nos modes de vie qui nous ont sédentarisés, et on a l'impression qu'on ne sait plus faire, alors qu'en fait on est programmé pour pouvoir se déplacer et marcher.
On a absolument, on est souvent, des gens me disent non mais toi t'es fou, marcher 7000 km c'était un surhomme. J'ai dit non, tout le monde est capable de marcher. Pour moi c'était pas un défi physique, c'était un défi mental. Moi je voudrais juste préciser une chose en marchant. Quand tu marches tu réfléchis beaucoup. Je me rappelle quand j'avais fait des cours de management, on parlait des quatre sentiments, donc la peur, la colère, la tristesse et le plaisir, quoi. Et j'ai beaucoup réfléchi à ces quatre sentiments. Quand je marchais, j'ai beaucoup réfléchi à ces sentiments. Et moi, j'étais un grand timide et j'ai essayé de vaincre mes peurs. Donc, j'ai commencé à faire du saut élastique, j'ai commencé à faire des petits sports comme ça. Alors, quand on est sur la plateforme, en haut, on a peur. Quand on est à 180 mètres d'altitude pour faire un saut, on a peur. Mais quand on est en bas, on a du plaisir, quoi. Donc, comment je suis parti à Dakar ou quand j'ai traversé les Alpes à pied, effectivement, au début, j'avais peur. Aller à Dakar, la Mauritanie, le manque d'eau, le divorce, tout y est passé, quoi. Mais je savais très bien qu'à l'arrivée, j'aurais du plaisir. Donc, pour moi, je vois beaucoup de gens qui sont planqués devant leur télé. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Pour moi, personnellement, sortir de sa zone de confort, c'est vivre. Parce que tous les échanges, les sourires que j'ai eus, je les aurais jamais eus. Je me suis mis à mon compte en 97, j'ai créé ma société. J'avais aussi peur au début. Et ça a très bien marché. Même que j'ai pu m'arrêter de travailler à 57 ans. Donc, sortir de sa zone de confort, j'insiste, c'est vivre.
J'aime bien cette idée de transformer ses peurs en plaisir. À la base, tout fait peur, mais c'est effectivement quand on saute qu'on se rend compte que le filet apparaît et qu'on arrive à transformer cette peur en joie.
Et c'est pour ça qu'il faut sortir, il faut sauter. Il faut sauter le pas, quoi.
Comment on fait pour sauter le pas quand on a peur, Gaëtan ?
Alors là, il y a une grande force mentale. J'en parle dans mon livre, de la force mentale. J'ai plusieurs piliers. Déjà, il faut vraiment avoir envie. Moi, j'ai dit, je vais aller à Dakar, j'aurais mis 1 an, 2 ans, 5 ans, j'y serais allé, c'était pas le problème, quoi. Pour vaincre ses peurs, j'allais dire au début, il faut vraiment que ça soit une volonté de soi-même, quoi. Après, il faut être un peu fou. Il faut être un peu fou. Après, j'ai 8 piliers que j'explique dans mon livre aussi. Il faut surtout rester soi-même. Parce que tous les autres sont déjà pris, quoi. À l'école, on vous apprend à devenir quelqu'un, jamais à devenir vous-même, quoi. Donc à l'école, on vous dit tu dois faire ci, tu dois faire prof, quand tu auras la retraite, à 65 ans, à 67 ans, tu pourras aller vivre. Moi, j'ai décidé de vivre avant, quoi. Et c'est ma fille qui m'a ouvert les yeux en me disant « Papa, le monde est grand, la vie est petite, quoi. » Comment vaincre ses peurs ? C'est un grand aventurier, Mike Horn, je crois qu'il s'appelle. Je n'ai jamais lu son livre, j'ai juste retenu un truc. J'ai juste retenu un truc qui m'a dit 10% de préparation et 95% d'improvisation. Moi, mon Paris-Dakar, je crois que c'était 5% de préparation et 95% d'improvisation. Au début, je me suis dit, le désert, je m'achèterais un chameau, une mule, une tchala, je verrais bien, quoi. Sur mon sac à dos, il y avait marqué Paris-Dakar, 7000 km à pied, quoi. J'avais fait à peine 2 jours de marche à Rambouillet, je m'installe sur une terrasse, et un gars qui vient, qui me disait, il vivait dans le désert, il m'a expliqué comment faire pour acheter un chameau, combien j'allais le payer, et je m'attendais à rien, il m'a expliqué ça. Et en continuant au fur et à mesure, quand je suis arrivé effectivement en Afrique, sur Casablanca, il y a un gars qui me dit, t'as pas besoin d'acheter un chameau, tu verras. Les musulmans, l'eau, elle vient du ciel, elle n'est pas à nous, on te la distribue. Tu restes sur la route, tu verras les camions, ils te jetteront des bouteilles d'eau. Et effectivement, quand j'étais à Guelmine, pour du désert, 1700 km à faire, bien sûr, j'ai pris 8 litres d'eau avec moi, et j'étais à peine 100 km dans le désert, les camions s'arrêtaient me donner de l'eau, quoi. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est, faut pas trop réfléchir, faut y aller. C'est en marchant qu'on apprend.
ne pas réfléchir. C'est vrai que c'est souvent le mental qui nous met les barrières et qui va générer les peurs qui vont nous empêcher d'avancer. Et je reprends aussi cette phrase que j'aime beaucoup, cette notion de vivre ses rêves. Hein, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves.
Absolument. J'avais aussi entendu parler que dans notre cerveau, il y a à peu près, je ne sais plus, par minute, il y a 40 ou 50 idées qui nous passent dans la tête. Et il y a 90% qui sont, c'est des pensées négatives. Il n'y a que 10% qui sont positives, quoi. Et à cela, quand on dit à quelqu'un, bon, je vais partir à Dakar à pied, il y a encore les pensées négatives des autres. Mais c'est dangereux, tu vas voir, etc. Sur mon parcours, là où j'avais vraiment peur, je vous le dis honnêtement, là où j'avais vraiment peur, c'était dans le métro à Paris. La Mauritanie, on me disait, tu vas voir, c'est dangereux. J'avais pas peur du tout là-bas. La Mauritanie, le Sahara, j'avais pas peur du tout. Et on vous inculque, dès qu'on est petit, déjà notre cerveau, il a que des pensées négatives. On vous inculque ces pensées négatives, c'est dangereux. Alors que les jeunes n'y étaient jamais. Alors les médias qui vous racontent toutes ces conneries-là, moi je pense que la France est beaucoup plus dangereuse que la Mauritanie ou le Sahara, quoi. Après, il y a un gros truc aussi que j'ai envie de préciser, justement par rapport à ces pensées négatives. Sur 10 trucs qui se passaient dans la journée, il y avait un truc de positif peut-être. Et je rebondissais là-dessus. Quand j'étais dans le désert, il y avait des lignes droites sur 800 km. Les gens me disaient, mais t'es fou, comment tu peux faire ça? Ça peut être monotone. Et moi, je répondais, mais j'ai pas besoin de réfléchir. Ça va tout droit, ça ira plus vite. Quand j'allais revenir en France, on me disait, tu vas voir, il y a des grèves, ça va être dur, etc. Et moi, je disais, mais il y a du fromage. Il y a des douches chaudes. Et mais toujours garder le positif. Moi, des fois, je dormais par terre dans le désert, mais j'étais à l'abri. Il y avait 3 jours de tempête de sable quand j'ai traversé le désert. Il y a des gens, ils ont dit, mais comment tu fais, etc. J'ai dit, mais c'est une belle expérience. Est-ce que vous avez déjà fait une tempête de sable? Et puis, j'étais resté sur la route, les camions, ils passaient. Il y avait rien dans le désert, et de temps en temps, il y avait des camions qui passaient, ils me klaxonnaient, ils me jetaient des bouteilles d'eau. Mais c'était le bonheur, ça. Je me mettais près du camion. Quand il passait vite, ça me faisait de l'air frais. Et klaxonner, parce qu'il descendait sur Dakar, il ramenait les légumes, il remontait, il redescendait, et puis il me voyait tout le temps marcher tout seul, il me klaxonnait. Et c'était mon petit bonheur quand il levait le pouce, il fait pam pam. Et hop, j'étais motivé pour 3 heures après.
Gaëtan, quand on t'entend, ça paraît presque trop facile, mais il y a quand même des moments où on a peut-être mal aux pieds, où on a faim, on a froid, il pleut. Ah, ça doit quand même arriver, des moments où on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là?
Pas du tout. Alors là, les gens ne me croient pas, mais pas du tout. Souvent, je pensais à tous ces gens qui regardent la télé, qui regardent Macron, le Trump, la guerre d'Ukraine et ça. Moi, j'étais bien. Quand des fois, ça n'allait pas, j'écoutais un peu Céline Dion dans les oreilles. Nanana, nanana, nanana. Et je disais seul, mais qu'est-ce que je suis bien dans le désert tout seul. Pas de stress, le voisin, il râle pas, la voiture qui est un peu rayée. C'est mais pas ça du tout. Moi, le seul bonheur que j'avais, c'était de rencontrer des gens avec le sourire. Mais alors pour les pieds, beaucoup de gens disent oui, les mal de pied, tout ça. Non, les pieds, heureusement, j'avais un peu l'expérience d'avoir fait quelques marches avant en montagne. J'ai fait 7000 km avec 0 ampoule au pied. Et 0 ampoule au pied, c'est pas très compliqué. Quand on analyse un peu la situation, le sac il est lourd, il fait chaud, le pied il gonfle. Et donc, qui dit gonflement, dit frottement, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris des chaussures qui sont un peu plus grandes, une ou deux tailles au-dessus. J'ai pris des chaussettes qui font papa, maman, là. J'ai acheté chez le vieux voleur, là. C'est pour ceux qui connaissent. toutes les nuits, je mettais de la vaseline avec des chaussettes. Donc, la vaseline, c'est gras. Et je dormais avec des chaussettes pour qu'avec la chaleur, la vaseline rentre dans le pied, quoi. Et ça faisait un genre de paraffine sur le pied. J'ai jamais eu de problème avec ça, quoi. Donc, à force de randonner, avec des groupes de randonneurs sur les réseaux sociaux, on s'échange des trucs et des astuces comme ça. Et puis, c'était le bonheur, quoi. Et franchement, moi qui suis pas sportif, quand je suis arrivé à Dakar, alors il y avait la fête, il y avait 200 personnes qui m'attendaient, c'était génial, des gens qui m'ont suivi sur le réseau. J'avais qu'une envie, c'était de descendre au Cap. Il me restait que 12 000 km à faire, quoi. Et j'avais vraiment pas envie de faire demi-tour. Je suis marié, mon épouse, elle a perdu sa maman, j'ai des enfants, je suis rentré en avion parce qu'au début, je voulais rentrer à vélo ou en voilier, quoi.
On parlera du retour après dans cette émission, parce que souvent c'est ce qui est le plus compliqué. Devant moi, j'ai donc un bouquin, Paris-Dakar, à pied. Donc j'aimerais que tu me parles de ce projet de livre et d'écriture, parce que c'est le premier bouquin que tu écris. Mais avant de parler de ton bouquin, j'aimerais que tu me parles aussi de la magie du chemin. Parce qu'il y a cette notion d'effectivement le fait de partir comme ça sans vraiment savoir où on va s'arrêter pour dormir. Mais il y a des fois, tu parlais de ce monsieur que tu rencontres à Rambouillet qui te parle des chameaux. Enfin voilà, il y a des rencontres qui des fois peuvent paraître complètement surréelles, voire surnaturelles. Surréel. Est-ce que tu as aussi expérimenté ça, cette notion de magie, de rencontre improbable, et d'où vient, et comment tu l'expliques, toi, cette magie?
Tous les jours, c'était magique, tous les jours. Il y a Il y a un patron d'entreprise, Jean-François Zovris, que j'avais rencontré beaucoup, qui me disait « à la base, l'homme est bon ». Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie pour faire grandir les équipes, les opérateurs, les ouvriers, les employés. Et je pars du principe qu'à la base, l'homme est bon. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Aujourd'hui, on est tellement bridé dans notre société qu'on a un peu d'argent et on a peur qu'on nous le vole. Mais comme les gens qui n'ont rien, eh ben, ils vous donnent tout parce que justement, ils ont rien et vous n'avez rien non plus. Je me rappelle très bien, un jour, j'arrive au Portugal, dans un petit village, il faisait chaud, il n'y avait rien. Je leur explique, est-ce qu'il y a un hôtel, hostel, machin, on ne comprenait pas. Ils n'arrivaient pas. C'était un tournoi de foot et puis d'un coup, il y a un sandwich qui vient avec de la viande dedans, un coca qui arrive et tout. Et puis un gars, il me parlait en portugais, j'ai rien compris, il m'a dit de le suivre et il m'a fait dormir sur le tapis de mousse de la salle de sport, quoi. Mais c'était génial. Mais tous les jours, j'avais ça. Tous les jours, j'avais ça. Par contre, il faut venir avec le sourire. Il ne faut pas venir, moi, j'ai une Rolex, quoi. Il faut être simple. Et puis si les gens ne veulent pas vous accueillir, vous allez au village d'après ou vous dormez tout seul en nature. Mais tous les jours, et c'est ça qui est formidable, tous les jours, on est émerveillé. Et c'est pour ça, souvent, le plus dur dans des voyages comme ça, c'est le retour. Parce que quand on revient ici, métro, boulot, dodo, la télé, tous ces trucs-là, il n'y a plus d'émerveillement.
Alors, est-ce qu'il n'y a plus d'émerveillement parce qu'on est habitué à vivre autrement, ou est-ce que c'est parce qu'ici, dans notre région, dans notre pays, il n'y a pas cette ouverture d'esprit, ou est-ce que c'est nous qui, je sais pas, peut-être on dégage quelque chose de plus terne, de moins joyeux, donc moins de perches nous sont tendues? Comment tu expliques que les retours soient difficiles?
C'est pas évident d'expliquer, Quand moi je raconte que moi j'étais tellement bien dans le désert, ou quand je marchais 30, 40 km par jour, Je pense qu'il faut avoir, il faut l'avoir vécu pour comprendre ça. Quand on vient ici, moi, la fin de mon bouquin, c'est ce que je dis. J'étais à la boulangerie tous les matins. Je dis bonjour, comment allez-vous et tout. Et puis les gens, ils vous regardent bêtement, ils regardent par terre. Ils ont autre chose dans la tête que de saluer, de partager, etc. Et puis c'est dans cette boulangerie justement qui est pas très loin de chez moi. Un jour, j'ai dit bonjour et puis personne ne m'a répondu. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon épouse. Je vais repartir. Elle m'a dit, je savais que tu allais repartir, j'espère que ça sera moins longtemps. Et je suis reparti marcher après mon Paris-Dakar, je suis reparti marcher à 3 mois. Je suis allé à la rencontre du peuple berbère, j'ai traversé tout le haut Atlas pendant 3 mois. Et là, c'était un peu plus dur parce que j'avais pas d'eau du tout pendant 15-20 kilomètres, mais c'était merveilleux, quoi. Les gens, ils avaient encore moins, on appelle ça le Maroc oublié. Et j'étais seul et en fin de compte, j'étais pas seul.
C'était pas sur ce voyage-là alors,
non,
ça.
C'était le voyage d'après. Okay. Là, je suis revenu du Paris-Dakar en 2023, le 8 mars. Et en 2024, là, j'ai traversé le Haut Atlas.
Okay. Parle-nous de ce projet d'édition, de livre. Pourquoi avoir voulu écrire et qu'est-ce qu'on y retrouve dans ton bouquin?
Alors déjà, un, moi, je voulais pas écrire. Deux, en classe en français, je devais avoir 3 sur 20, parce qu'on m'essayait de me faire du Baudelaire ou du Victor Hugo, je sais pas trop quoi, et puis moi ça m'énervait, j'étais nul en français. Et trois, sur les réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Par contre, quand je suis parti à Paris, tout le monde allait se poser des questions, comment ça va, machin, alors j'ai commencé un compte Facebook, un compte Instagram. Et malheureusement, à la fin, je me suis retrouvé avec 15 000 personnes qui me suivaient. Et tout le monde disait « Mais tu écris bien, Gaëtan, tu écris bien, tu devrais faire un livre. » Et j'ai dit « Mais non, il est hors de question que je fasse un livre, c'est pas mon truc. Déjà, moi, j'ai jamais lu de ma vie un livre. » Et en fin de compte, j'ai fait des conférences là dans une maison de retraite et les petites dames de 97 ans m'ont dit « J'espère que vous allez faire un livre, hein, que vous le ramènerez avant Noël. » Et j'ai craqué, je me suis dit « Allez, je vais faire un livre. » quoi. Alors ce livre, j'ai remarqué que quand j'écrivais sur les réseaux sociaux, j'écrivais pas avec mon cerveau, j'écrivais avec mon cœur. Et ce livre, je l'ai écrit avec mon cœur. J'ai expliqué dans ce livre pourquoi je marche, donc ma jeunesse, comment j'ai vaincu ma timidité. Je parle un peu de mon entreprise, de ma force mentale, et je parle surtout du déclic que j'ai eu de ma fille qui me dit « Papa, le monde est grand, la vie est petite ». Et donc j'explique les différentes marches que j'ai faites. J'explique un jour J, le 6 juillet 2022, je suis parti de la Tour Eiffel. En train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je savais très bien qu'au fond de moi-même, ça allait être dur, mais je savais très bien que j'allais arriver à Dakar, quoi. Et j'étais le premier au monde à le faire. A priori, j'ai vu personne d'autre qui l'a fait, quoi. Et dans ce livre, j'explique un peu les différentes rencontres, j'explique un peu l'évolution que j'ai eue. Au début, je prenais des photos des monuments. À la fin, je prenais que des photos des sourires. Donc, comment passer du matériel à l'immatériel? J'explique l'arrivée, j'explique le retour qui était dur. J'explique que j'ai retrouvé de nouveaux goûts en France à partager, à faire des conférences, à faire ce livre, à aller rencontrer des gens aussi en France. Et puis j'explique aussi pourquoi au bout d'un an je suis reparti.
Peut-être une question aussi que j'aime bien poser à la fin. Qu'est-ce que le voyage t'a apporté ou qu'est-ce que la marche t'apporte? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta vie?
La marche ou le voyage, ça m'a fait grandir dans le cœur et dans l'esprit. Le fait de prendre du recul, ça me fait réfléchir à c'est quoi la vie, c'est quoi le bonheur, quoi. Et c'est composé de choses simples, quoi.
C'est vrai que tu l'as beaucoup utilisé, ce mot, le bonheur. Donc, pour conclure, c'est quoi le bonheur ?
Le bonheur, c'est un ensemble de choses simples, quoi. Le plaisir, quand on s'achète un sac à main, c'est un plaisir, c'est ponctuel. Le bonheur, c'est plein de petits plaisirs tous les jours, au quotidien, quoi.
Donc, c'est aussi une manière de poser son regard sur le monde, parce qu'on peut très bien apprendre à apprécier, faut apprendre à apprécier ces choses simples.
Absolument, il faut se prendre le temps de rencontrer le monde, de rencontrer les gens, de découvrir des choses simples. Et aujourd'hui, quand on regarde les sociétés où on court sans arrêt, il y a le TGV qui va encore plus vite, on court sans arrêt. Moi aussi, professionnellement, avant, j'avais du plaisir quand je décrochais des gros contrats, etc. Et toujours plus. Et là, j'ai dit stop, je prends le temps, je vis.
Stop, prendre le temps, c'est peut-être ça aussi qui est précieux, hein, le message. Hein. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais s'offrir. C'est quelque chose qu'il faut prendre, tout simplement.
Je regardais à la télévision tout à l'heure, parce que malheureusement, depuis que je suis en France, tout le monde met la télévision, etc. Je regardais un célèbre milliardaire qui fait des voitures, que je ne vais pas le citer. Je me suis dit, ok, il est peut-être milliardaire, mais le jour où il aura 80 ans, il ne pourra pas racheter ces années qu'il a perdues, quoi. Même s'il a toute la fortune du monde, quoi.
Gaëtan, merci. Merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.